Eh bien, justement, nous allons nous tourner vers plein d'invités dans le studio et en ligne aussi au téléphone. Tout d'abord, j'aimerais saluer Élodie Palluette, excuse-moi, nouvelle présidente de la Fondation Émergence. L'annonce a été faite ce week-end. Bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
Je vais t'inviter à t'approcher du micro, oui. Et puis, il y a Patrick Desmarais qui est vice-président en relations externes de la Fondation. Il a été président pendant 8 ans. Il venait avec nous pour soutenir sa collègue. Alors, bienvenue à l'émission à nouveau, Patrick.
Merci toujours de l'invitation.
Et puis, au téléphone, il y a Marika Robert, présidente du conseil d'administration du Réseau des lesbiennes du Québec. Bonjour, Marika.
Bonjour, merci de l'invitation.
Oui, alors, et évidemment, j'ai Mona Greenbaum, co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+. Salut!
Hello, bonjour.
Alors, je pense que je ne l'ai pas demandé, mais les nouvelles personnes ici, vous utilisez quel pronom ou quel accord? Je pense que Élodie, je peux te le demander.
Moi, j'utilise le pronom « elle ».
Et même chose pour America, c'est la première fois que tu es à l'émission, on va te demander quel pronom et quel accord tu utilises.
Moi, j'utilise les pronoms « elle » et « il » en alternance.
D'accord. Alors, je sais pas si vous avez tout le monde eu la chance, surtout pour toi, America, d'entendre l'analyse d'Alexandre, mais considérant là que une faction du Parti conservateur fédéral, notamment dans l'ouest du pays, a des positions clairement homophobes et transphobes, est-ce que nos communautés peuvent dire « ouf » aujourd'hui? Comment la victoire même du parti, même minoritaire de Mark Carney du Parti libéral, est-elle perçue dans nos communautés? C'est des questions, je pense, qu'on doit répondre. On sait que Justin Trudeau a été un allié indéfectible des causes queer. Il était flamboyant, il aimait se mêler au défilé. Disons que, à quoi on peut s'attendre d'un Mark Carney plus à droite? Bien, je vous lance là-dessus. Comment on réagit à cette élection qui me semble qu'elle est un petit peu mi-figue, mi-raisin, même s'il y a beaucoup de gens qui disent « ouf ». Élodie, je te lance la balle.
Wow, c'est une sacrée grosse question. En effet, mais je pense que de toute manière, cette élection s'inscrit dans un contexte international qui est quand même très particulier. L'augmentation des criminels, des politiques au niveau législatif, là, on a les reculs. Je pense que M. Duval en a parlé mieux que nous. Je pense que au niveau de la Fondation, nous, c'est sûr que c'est un organisme qui est apolitique. Donc, on regarde ça un petit peu préoccupé, mais en se disant, on va évaluer la situation, en disant quelles vont être les politiques qui vont être mises en place, quelles sont les actions concrètes qui vont être mises en place pour pouvoir continuer à soutenir nos communautés et puis donner de la visibilité à nos enjeux. Nous, de notre côté, on va travailler avec tout le monde pour le bénéfice de nos communautés.
Je vais tout de suite aller à America. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment on doit réagir à ces résultats? Peut-être même mi-figue, mi-raisin, je reprends la même expression.
Ouais. Oui, mais en effet, je pense que c'est un soulagement, mais c'est pas nécessairement une victoire de ce que je ressens, surtout sur le terrain plus militant. Je pense que ça a occasionné beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport aux résultats de ces élections-là qui ont été un peu précipitées. Mais oui, je ressens quand même un soulagement, mais je ressens pas le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à gagner. Et après, il reste à voir c'est quoi les actions concrètes. Là, on parle un peu du sac d'eau qui était très présent, oui. Nous, je pense qu'on en a assez un peu de l'inclusion de façade. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus concret? On veut voir qu'est-ce que Mark Carney propose justement pour nos communautés. Je pense que ça va être dans les prochains mois là, qu'on va voir comment ça va se dérouler, mais définitivement un soulagement pour l'instant.
Je pense que maintenant, je vais te lancer sur autre chose. Il y a quand même presque 42 % des Canadiens qui ont voté en faveur d'un parti politique avec des positions nettement homophobes et transphobes. Mm-hmm. On va le dire là, parce qu'on peut dire on n'est pas homophobe, mais là, regarde, les positions sont claires. Comment on réagit à ça?
Mais c'est vraiment, ça fait peur, c'est certain. Malgré comme des énoncés, comme Alexandre a dit, complètement transphobe, et puis toute l'idée de comme barrer les femmes trans des toilettes, de pas reconnaître que deux genres, donc comme de effacer les personnes non binaires, il y a quand même des personnes, beaucoup de personnes, presque la moitié des personnes qui s'en foutaient de tout ça et puis qui ont voté quand même pour les conservateurs. Je crois que les gens avaient probablement juste un enjeu en tête, c'était Trump. J'espère croire que c'était pas comme une vote contre les personnes trans, mais quand même, ça démontre que comme on est comme la communauté LGBTQ+, en général, on est un sujet polarisant. Puis c'était pas politiquement gagnant de parler de nous. Donc, au début, il a parlé comme ça, mais quand il a été trop associé avec Trump, donc soudainement, on a entendu moins sur ça. Et puis de l'autre côté, Carney, qui était comme, qui a complètement évacué le sujet. Il voulait pas comme polariser les gens. Donc pour moi, ça fait peur parce qu'il y a une montée de la haine et puis la silence contribue à ça.
Oui.
Donc c'est, pour moi, c'est comme, quand on parle de comme soulagement ou non, c'est un petit soulagement qu'on n'a pas eu le pire avec Poilievre, mais quand même, comme on verra pour le futur.
Moi, je pense que je vais te lancer là-dessus. On a vu que le vote conservateur se concentre chez les jeunes hommes en bas de 34 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, Patrick.
Là. Bien, je pense que autour de la table, ça fait longtemps que tout le monde travaille autour de ça, là, mais c'est préoccupant de voir que il y a une réaction masculiniste qui adhère à des doctrines anti-LGBT aussi marquées, alors que tout le monde a le droit d'être qui il est au Canada. C'est ça qui est perturbant. Et ce qui semble... J'aimerais ça voir les analyses de vote. Là. Est-ce que ces jeunes hommes ont été votés? Parce que moi, c'est ça ma crainte. Oui, ils sont majoritairement anti... Ils sont beaucoup plus à droite en termes de valeurs, etc. Je ne sais pas s'ils ont des valeurs économiques de droite, mais ils ont des valeurs de droite sur d'autres niveaux. Est-ce qu'ils ont été votés? Puis s'ils allaient voter, est-ce que ça aurait été un autre résultat qu'on aurait eu il y a deux semaines?
Bien, peut-être, oui.
Mais c'était vraiment une démographique ciblée. Ça, c'est certain. On a vu ça aux États-Unis. Ils ont ciblé les jeunes hommes avec ce genre de comme des attitudes
TikTok,
sociales.
Hein?
Et puis, j'imagine que c'était la même chose au Canada. Et puis, les jeunes, si j'ai bien compris, ont voté beaucoup plus que d'habitude. Donc, ils sortent, et puis, il a ciblé à Poilievre exactement ce genre d'audience.
Donc, il ne faut pas... c'est pas un ouf. Il y a encore beaucoup de travail. C'est un gouvernement minoritaire. Effectivement...
Et qui est à son quatrième mandat. Hein. Ça va être plus difficile d'en chercher un cinquième, là.
Probablement, mais il faut aussi lui donner la chance de prouver ses 100 premiers jours.
Oui.
c'était une des premières questions que je me suis posée. Qui sont les élus de ce gouvernement? Est-ce qu'on a des gens de la communauté qui sont dans ces élus-là? Donc, tout ce qu'on a parlé un peu plus tôt sur ce volet-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis, il faut penser que l'année dernière, on pensait que c'était un gouvernement de droite qui rentrait. Mmh. Et on se posait la question, est-ce qu'on a des alliés parmi ces gens-là?
Ouais.
Parce qu'il y en a. Faut pas penser que c'est tout des anti-LGBT, mais leur voix était silencieuse depuis plusieurs mois, ces personnes-là.
Ouais. Mmh. Je sais pas, je te vois réfléchir, Alexandre, à Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus?
En fait, rapidement, moi, j'aurais envie.
Oups, le son n'est pas bon. Le son, on ne t'entend pas bien. Attends-tu, recommence.
Est-ce que tu m'entends?
Oui, c'est bon, on y va. Oui.
Bon, j'allais dire, il va falloir effectivement regarder Pierre Poilievre. Il va mettre qui dans son cabinet fantôme? Ça va être qui, les députés, qui vont avoir la responsabilité de donner la réplique aux ministres libéraux sur ces enjeux-là? Est-ce que ce sera des députés de la droite morale ou ce sera des députés plutôt progressistes sur le plan moral, sur le plan social? Il va falloir aussi peut-être surveiller de l'œil effectivement dans le détail qui est allé voter. Est-ce que les jeunes hommes sont allés voter? Il faut se garder de faire des corrélations entre le fait de voter pour le Parti conservateur et le fait d'être homophobe ou transphobe, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont voté pour les conservateurs qui ne le sont pas du tout, qui sont plutôt au contraire du côté progressiste conservateur plutôt que de la droite morale conservatrice. Mais il reste que le Parti conservateur qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est le produit de Stephen Harper qui avait fusionné avec l'Alliance canadienne. Ce n'est plus le Parti progressiste conservateur des années Mulroney. Et donc, la frange qui domine actuellement le Parti conservateur du Canada, c'est la frange avec une certaine forme de droite morale. Ça, c'est clair, net et précis.
Ou au moins la frange le plus vocale.
Oui. Écoute, je vais juste donner peut-être un dernier mot à America. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dans les prochaines années en tant que communauté? vis-à-vis ce gouvernement?
Ben nous, c'est sûr qu'il faut travailler ensemble. Je pense que dans les dernières années, il y a quand même une division au sein même de nos communautés. Il y a des divisions partout, mais je pense qu'il faut de plus en plus tisser des liens entre nous pour être de plus en plus forts. Je pense qu'on a des grandes forces qui sont là, des grands acteurs, actrices de changement dans nos communautés. Il faut savoir travailler avec eux, reconnaître le travail qui a été fait dans le passé puis continuer de regarder en avant. Mais je pense qu'il faut surtout s'adresser au gros fléau de la désinformation qui, je pense, impacte beaucoup, beaucoup ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe autour de nos communautés, puis l'impact que ça peut avoir aussi chez les jeunes et évidemment chez les moins jeunes. Donc, selon moi, c'est quand même deux grandes priorités.
Du pain sur la planche. On n'aura pas le temps de passer toutes les questions qu'on avait prévues, mais au moins, on a une bonne idée de ce qui nous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je voudrais tout vous remercier, tout le monde. En fait, Patrick Desmarais et Élodie Pelluel, vous allez rester parce qu'on a un autre petit bout d'entrevue à faire. Merci à Marika, merci à Alexandre et merci Mona.
Merci.